Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Que nous ouvrions notre Bible dans le livre de Daniel, le prophète Daniel. Et nous allons faire une lecture intéressante parce que c'est une projection à travers l'histoire du temps, l'histoire des siècles, notre histoire contemporaine, les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Et la Bible est un livre prophétique et c'est donc à ce titre que j'aimerais justement que nous ouvrions cette méditation. Alors Daniel chapitre 2 verset 31. Voilà. Livre de Daniel et nous allons réfléchir sur cette révélation que Dieu a donnée à ce grand prophète de la Bible, prophète exilé à Babylone et qui nous parle encore. Donc, prophète Daniel chapitre 2 verset 31 et je lis ceci. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait été frappée, qui avait frappé la statue, devint une grande montagne et remplit la terre. Voilà pour notre première lecture, nous en ferons d'autres, nous compléterons avec d'autres lectures, mais j'aimerais d'abord faire un peu l'état des lieux de la situation. C'est de l'histoire que nous allons faire. Alors peut-être que ceux qui n'aiment pas l'histoire, vous allez faire un effort ce matin, et puis pour ceux qui l'aiment, alors ils vont être comblés. Je vous le garantis. La vision du prophète est sa perspective historique, parce que il y a dans la Bible différentes sortes de prophéties. Il y a des prophéties dont l'accomplissement ne s'est pas fait attendre. Et puis, il y a des accomplissements qui traversent les temps, les siècles, les sociétés, les civilisations, à travers les mouvements de ce monde, les empires, les royaumes, enfin, toutes sortes de choses. Mais en ce qui concerne Daniel, on a dit que le livre de Daniel était l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Si ça peut vous donner une petite idée, hein. Et c'est vrai que lorsque nous comparons les données prophétiques du prophète et puis que l'on regarde un autre prophète bien connu, c'est l'apôtre Jean, qui nous parle des derniers temps, eh bien, il y a des choses qui sont quand même très intéressantes et qui ont pour but non pas de nourrir notre curiosité de savoir quand est-ce que le Seigneur va revenir et ceci et cela, etc. C'est de la pure spéculation et je me livrerai pas à ça. Mais c'est tout simplement pour dire à l'Église d'aujourd'hui, tenez-vous prêts, levez la tête, parce que le Seigneur revient bientôt. Et ça, c'est le but. Donc, de garder la foi, et d'être vigilant, prudent, et de faire attention à tout ce qui se passe autour de nous. Un chrétien n'est pas en dehors de la société et de tout ce qui se passe. Hein. Un chrétien est un homme qui sait s'informer, qui vit sa foi dans le monde là où Dieu l'a placé, et qui, quelque part, va non seulement conserver en lui-même le bon dépôt de la foi, mais le transmettre aux autres pour les prévenir. Et leur dire attention, ce qui peut-être nous semble tellement évident autour de nous n'est peut-être pas totalement la réalité, n'est peut-être même pas la réalité, parce qu'il y a une réalité physique, matérielle, visible, mais une réalité spirituelle qui est au-delà de tout le reste. Alors, perspective historique, et nous allons fixer notre attention sur ce quatrième empire, figurez-vous. Alors j'aimerais, il est dit qu'il y a la tête d'or, il y a également le tronc et les épaules qui sont d'argent, il y a l'abdomen et les cuisses qui sont d'airain, et il y a les jambes de fer. Alors ça c'est quelque chose que je voudrais simplement remettre à votre mémoire. La tête d'or c'est Babylone avec le roi Nebuchadnezzar, le grand roi, précisément, où se trouvait David dans son Daniel dans son palais. Et tout a commencé là. Et ce règne d'or, l'âge d'or de Babylone, a duré à peu près 85-86 ans. Donc, un empire très court. Ensuite, le suivant, le premier a été battu. Il a été remplacé par le deuxième, l'empire des Mèdes et des Perses. Cyrus, Darius, ce sont des faits d'histoire. Hein. Vous pouvez toujours regarder sur Internet et vous tapez les noms, vous allez avoir toute leur vie. Et cet empire qui était représenté par l'argent, c'est-à-dire les épaules, le tronc, qui était un empire extrêmement légal, très difficile, très dur, il a duré à peu près 200 ans, donc un peu plus que l'autre. Mais vous savez que l'argent, c'est une valeur moindre que l'or. Ensuite, il y en a un troisième qui a renversé le second, qui était l'empire grec, avec cet homme qui a été connu pour ses conquêtes fabuleuse, c'est Alexandre le Grand, roi de Macédoine, et qui a conquis une grande partie du bassin de la Méditerranée, et son empire a duré à peu près 300 et quelques années. Donc on voit que ça diminue en valeur des matériaux, ça c'est l'airain, et que ça également augmente en temps. Et puis le quatrième empire, je mets un point d'interrogation parce qu'il va être l'objet de notre réflexion ce matin, il a duré à peu près 450 à 500 ans. Et vous allez voir qu'il va vous rappeler quelque chose. Et il est fait de fer. 500 années de règne de cet empire, dont nous tenons quand même notre civilisation. Aujourd'hui, ce que nous sommes, mais on va en parler davantage. Alors voilà donc, quatrième empire et sa finalité. Et j'aimerais justement, on va rester sur notre page, toujours au chapitre 2, on va lire le verset 40 à 45. Ça va nous donner peut-être un petit peu plus, puisqu'on va parler du quatrième empire. Il y aura, verset 40, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Je retiens deux ou trois petites choses. Il nous est parlé que ses jambes sont de fer et ses pieds en partie de fer et d'argile. Ce royaume sera divisé. C'est toujours la statue que l'on voit, la tête, l'or, et on descend, les pieds qui sont là, eh bien, le socle. Hein. Les pieds, c'est quand même le socle. C'est quelque chose de solide, nos pieds, hein, parce qu'autrement, on serait toujours par terre. Hein. Et là, il y a le mélange de fer et d'argile, ça ne peut pas tenir ensemble. Ils seront divisés, et il nous est dit qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Alors, on va considérer tout cela. Je le rappelle, la durée de ce quatrième empire, qui n'est autre que l'empire romain. D'accord ? Commencer par une république et ensuite un empire. Et qui va avoir une domination mondiale et qui a connu une étonnante mutation. En principe, quand un empire ou un royaume ou un pays est renversé par un autre système et un autre, notre société, on évacue l'ancien, on ne parle plus de l'ancien, on casse tout de l'ancien et on reconstruit au neuf, avec du neuf. avec une société nouvelle, avec une langue nouvelle, avec une culture nouvelle, etc., etc. Et vous allez voir que ce quatrième empire a donné naissance à un autre empire, où on a mélangé les choses, on a gardé les vestiges de l'ancien pour faire du neuf. C'est peut-être un peu ce que Jésus nous dit par rapport à l'évangile. Comment peut-on rapiécer un vieil habit, mettre une vieille pièce sur un habit neuf? Voilà. Ou le vice-versa, hein, peu importe. Hein. Parce qu'à un moment donné, la déchirure va être manifeste. Hein. Si vous mettez du vieux avec du neuf, si vous essayez de refaire finalement du neuf avec du vieux, ça ne donne pas toujours des choses heureuses. Et cette domination de cinq et quelques siècles, eh bien, je vous l'ai dit, a connu un bouleversement, une transition, quelque chose d'étonnant. Et passez-moi à l'expression, parce que je voudrais pas choquer la conscience de personne, mais nous sommes passés du césarisme, le règne, l'empire des Césars. Alors la suite, entendez bien, les empereurs, au papisme, au souverain pontife. Alors ça va vous étonner ce matin. Ça va vous étonner parce que on se dit, mais il y a quelque chose, ça, je n'accepte pas ça. Alors, ce n'est pas péjoratif, ce que je veux dire, c'est tout simplement les relevés de l'histoire qui nous montrent qu'il y a eu une transition, une succession. Les empereurs de Rome, l'histoire nous rapporte à travers tout ce qu'ils ont été, tout ce qu'ils ont fait, etc. La force de l'Empire romain, son fasme, son prestige, sa gloire, nous pourrions dire. Vous vous rendez compte, tous les pays ont été conquis du bassin de la Méditerranée, et rien ne les arrêtait. Et ça a été quelque chose d'assez étonnant. Les légions romaines, l'organisation, la paix romaine, Pax Romana, et toutes sortes de choses ont été mises en place. Et c'est vrai que ça tenu, c'était du solide, c'était du fer en quelque sorte. Alors, je le dis bien, du césarisme au papisme, donc le souverain pontife, un homme que l'on appelle, que l'on appelle le souverain pontife. Le lien étrange de tout ça, et c'est ce qui a fait la transition, le lien étrange est apparu d'une manière tout à fait particulière, non pas dans la gloire, mais dans l'humilité. Ce lien, c'est qu'au cœur même de cet empire romain, c'est-à-dire à l'an zéro de notre ère. C'est comme ça qu'on a considéré, hein, si on considère que finalement le calcul n'est pas toujours des plus exacts, mais néanmoins, l'année zéro de notre ère. Eh bien, il est arrivé quelque chose dont la Bible nous parle. Dans cet empire tout puissant est apparu un enfant, devenu un homme, que la Bible appelle le Christ, symbolisé par ceci, et on va lire le verset 45. Écoutez bien, toujours dans le même chapitre. « C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. » Ça commençait par les pieds, ça montait jusqu'en haut, et tout s'est écroulé. La statue humaine, la statue de l'humanité, s'est écroulée lamentablement. Une petite pierre. La petite pierre qui est encore aujourd'hui, ce que Jésus se nommera lui-même la pierre angulaire, la pierre de langue, la pierre de scandale, la pierre d'achoppement, va dégringoler, va effondrer ce grand empire humain dont les premiers vestiges remontent à la tour de Babel. Si l'on veut. Là commence la véritable histoire entre le monde moderne, on peut le dire, avant c'était l'Antiquité, le monde moderne et l'Église. Le christianisme plutôt, parce que l'Église pour nous a une signification tout à fait particulière. L'Église, ce sont ceux et celles qui sont repentis, nés de nouveau, convertis à Jésus-Christ, dont la vie a été changée, et qui ne vivent pas d'une manière religieuse, mais qui ne vivent d'une manière spirituelle. C'est ça l'Église. Mais l'Église est impliquée dans tout ça. On l'appelle l'Église. Mais moi, je voudrais lui donner, pour la véritable Église, je voudrais lui donner le nom d'Église de Jésus-Christ. C'est pas l'Église protestante. C'est pas l'Église évangélique. C'est pas l'Église orthodoxe. C'est pas l'Église catholique. Ça, il y a un nom. Mais ce sont des hommes et des femmes qui appartiennent pour l'éternité à Jésus-Christ qui les a rachetés, et bien tout simplement à Golgotha, et qui fait que notre appartenance, notre relation, notre lien, c'est la foi en lui. Cette Église, nous allons en parler, il y a celle qui se fonde sur Jésus, parce qu'il nous a dit qu'il était le chef et la tête de l'Église, et il y a également peut-être une autre Église au pied d'argile, oui. Qui est grande, qui est puissante, tête d'or, avec de l'argent, avec de l'or, avec de l'argent, avec de l'airain, avec du fer, et avec du fer et de l'argile. Le géant romain, quatrième empire, impérialiste, on l'a dit, militaire, politique, a donné naissance à un autre géant, qui n'est pas moindre, un autre géant d'une nature différente. Ce géant qui est issu de la civilisation de l'Empire romain, c'est la nôtre. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Ce géant est d'une nature religieuse, je n'irai pas dire spirituelle, non. Non, mais d'une nature spirituelle, d'une nature religieuse, c'est le christianisme romain, dominateur, et peut-être moins aujourd'hui que dans les siècles passés, mais prenons-y garde. Domination non simplement des corps, ou par des décrets humains religieux, l'inquisition, les guerres de religion, la domination avec des dogmes, des choses, voilà, toutes sortes de choses, domination des corps, on a plié les corps, on a fait travailler les corps pour la gloire de cet empire-là, mais aussi des âmes et des consciences d'hommes, comme nous le dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 18. Et il est employé le mot de trafiquant de corps, d'âme, d'homme. Donc, c'est un empire qui va beaucoup plus loin que le premier, donc l'empire de Rome, mais lui, il touche les corps, il touche l'âme, il touche la conscience, il touche l'esprit. Puissance mondiale, hiérarchisée comme nous le voyons aujourd'hui, héritière du précédent, c'est-à-dire le quatrième empire selon Daniel, et qui s'est approprié, figurez-vous, faussement le monopole de la foi. Enfin, le mot foi est à mettre en doute. Hein. Monopole de la foi, en tous les cas de la conscience ou de la croyance chrétienne. Géant à la tête d'or, mais décroissant jusqu'aux pieds fait d'alliages hétéroclites. Les Mèdes étaient un peuple entier. Babylone était un peuple entier. Les Grecs étaient un peuple entier. L'Empire romain était aussi un peuple entier. Mais le quatrième ou descendant du quatrième empire, ce sont que des alliances. On va le voir. Ce sont des alliages. Alliages hétéroclites, voire des alliances incompatibles. Le pouvoir et la violence. À travers la religion et les États, la religion et les empires, la religion d'aujourd'hui et les croyances d'aujourd'hui avec le monde comme il est, autant à l'Orient qu'à l'Occident. Je parle du christianisme, je parle pas de l'islam, etc. Non, autant. Et on va voir qu'on va découvrir des choses assez étonnantes, parce que est-ce qu'on connaît bien le christianisme finalement ? Le christianisme que nous avons découvert, c'est celui de la Bible évangélique, celui de Jésus-Christ, mais celui qui nous entoure. Le christianisme il est multicéphale, on pourrait dire, il y a des têtes un peu de tous les côtés, hein. Nous connaissons un peu notre Occident, mais si on va en parler d'ici quelques instants, du christianisme oriental. Alors quand je dis oriental, c'est par rapport à l'Europe. Les pouvoirs et la violence, la religion et les États, l'opulence. Parce qu'il faut que ce christianisme-là, il se montre devant le monde, en disant « Mais nous sommes forts, nous sommes là, et nous représentons Dieu, nous représentons Jésus-Christ et sa gloire. » Vous savez, les choses sont très bien définies d'une manière tout à fait différente lorsqu'on lit l'humilité de Jésus et de ses disciples. C'est comme ça. dans ce prétendu christianisme au visage humaniste, parce qu'autrement ça aurait été un visage christique. Oui, le christianisme de l'évangile, ce serait un visage christique, c'est Christ qui est le chef. C'est lui qui est le maître de notre conscience. C'est lui qui est le chef, en quelque sorte. Donc, au visage humaniste et non spirituel, le Christ de l'évangile a été détrôné. C'est ce qu'il fera dire à Jésus dans une parabole. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Ils veulent bien de mon nom. Ils veulent bien de mon histoire. Ils ne veulent pas de ma croix. Quant à la résurrection, ça les dérange, parce que si véritablement ce Christ-là il est vivant, il va nous empêcher de faire ce qu'on veut. Ouais. Jésus donc a été détrôné pour faire place à une pléiade de faux ou de demi-dieux, à commencer par, excusez-moi, je vais dire des choses, mais il y aurait 3 ou 4 siècles, j'allais tout de suite en place publique, là où sur le pilori, mais merci pour la Révolution française, elle a donné à la liberté de conscience aux hommes, c'est bien. Oui. À commencer par la Vierge Marie. Oui. À commencer par les saints. Et bien entendu, ce nouveau César, qui est le pape, ou la papauté. Si nous poursuivons notre analyse et les constatations fournies par les faits historiques, il y a quelques questions qui se posent, inévitablement. Et une première question, c'est le cas de Pierre. Pierre, vous savez, il était l'apôtre de Jésus-Christ. Il a été doté de quelque chose de tout à fait particulier, parce que bon, c'était un proche de Christ. Jésus lui a confié les clés du royaume de Dieu. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire, ça aussi. Et ça pose quelques questions qui nous interpellent. Il y a une première question. L'édification de l'Église de Rome reposerait-elle sur des pieds d'argile? Ou prétendument faire remonter à Pierre la papauté? Alors je vais vous donner quelques renseignements. On va voir. Parce que ce qui est intéressant, c'est que notre référence... L'autorité de notre foi, c'est la parole de Dieu. On est d'accord, hein? C'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Et je vous dirai à cela que c'est à prendre en considération. Alors, nous allons d'abord, dans un premier temps, laisser la parole à celui qui sait mieux que nous, c'est Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, toujours sur cette question, est-ce que cet édifice reposerait sur... sur des pieds d'argile. Donc, dans Matthieu, il nous est simplement rappelé, et je voudrais le relire, chapitre 23 et versets 8 à 12, et après vous ferez les déductions que vous en voudrez, moi je ne veux pas vous orienter votre... Mais je sais que vous êtes convaincus, de toute façon. Jésus dira à ses disciples, « Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous des frères. N'appelez personne sur la terre votre père. » Car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, directeur de conscience, directeur des vies. Car un seul est votre directeur, c'est le Christ. Et Jésus va dire ensuite, mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Vous voulez être grand? Eh bien, vous servez les autres. Vous mettez les autres devant et vous vous passez derrière. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Vous avez Luc également, toujours, qui nourrit encore la pensée au chapitre 22, et je lis rapidement, et verset 24, il s'éleva parmi les apôtres une contestation. Vous vous rendez compte, déjà dans les premiers jours, il y avait déjà des contestations entre les hommes, et les hommes qui étaient près de Jésus, c'est pas normal quand même. Lequel d'entre vous devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, écoutez, les rois des nations les maltraitent, et ceux qui les dominent sont appelés des bienfaiteurs. C'est curieux, comment on retrouve les choses. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, dira-t-il. Mais que le plus grand parmi vous soit le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je vous dis, Et Jésus nous le rappelle, et c'est à nous souvenir, nous, dans nos églises. Il faut s'en souvenir, car n'est-ce pas celui, et moi cependant, je vous dis qu'au milieu de vous, eh bien, vous êtes comme tous pour servir. Vous êtes ceux qui avez percé avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. C'est-à-dire que c'est pas les hommes de décréter qui disposera du royaume ou non, mais c'est Jésus, on l'a bien lu. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Avant d'aller sur les trônes de l'éternité dans le ciel de gloire de Jésus, il va falloir porter la couronne d'épines. D'accord? Et pas une fausse humilité. Quelque chose profondément de cœur. Alors Jésus nous renseigne. Mais si j'écoute Pierre aussi, lui nous dit quelques mots. Ce Pierre dont on a voulu faire pape, vicaire de Christ. Il nous est dit tout simplement en premier, première épître de Pierre au chapitre 5 et verset 1-3. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Pas de supériorité, pas de dignité, plus, moins, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau, et lorsque le souverain berger apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voilà, Jésus, Pierre nous dit les choses. Si c'est Pierre qui le dit, alors pourquoi a-t-on fait le contraire dans l'histoire? Donc, nous constatons, selon les textes de l'Évangile, qu'il n'y a aucune prédominance humaine, aucune hiérarchie. Il n'y a ni honneur, ni titre. Frère parmi les frères, ancien parmi les anciens, chrétien parmi les chrétiens. L'humilité nous est présentée comme étant la règle de l'Évangile. Jésus a donné l'exemple parfait de la modestie et de l'humilité, dont nous avons besoin de nous souvenir et de suivre ses traces. La papauté inventée. Et là, nous allons apprendre des choses. Son adoption officielle remonte vers l'an 606. Alors, ça a fait quand même un petit bout de chemin. Vers l'an 606, or, 6 siècles après Pierre. Une longue chaîne, pourrait-on dire, de temps où il manquerait beaucoup d'anneaux. Nous, pour nous, ça fait déjà du temps de nous à cette déclaration officielle, reconnaissance officielle de la papauté, mais il y a quand même un trou de 6 siècles entre Pierre et puis cette disposition ecclésiale de dire, eh bien maintenant, Pierre est le chef et le premier pape. On pourrait dire ça de cette manière. Pour nous informer, la première moitié du premier siècle, de notre ère, il n'y avait pas de pape à Rome. Pas de pape à Rome. Par contre, il y avait des dignitaires ecclésiastiques qui étaient appelés des évêques. Alors il y avait l'évêque de Rome, il y avait l'évêque d'Antioche, il y avait l'évêque de Jérusalem, admettons, l'évêque de toutes les grandes villes et de tous les évêques d'Éphèse, par exemple. C'était des évêques, c'était tout simplement des gens qui étaient reconnus pour une foi caractérisée en Jésus-Christ, une foi saine, on peut dire. C'était des évêques. D'ailleurs, quelquefois, dans les discours, nous entendons parler encore de l'évêque de Rome. Évêque et pape, c'est deux choses différentes, hein. Et des évêques de Rome, des évêques à Rome, il y en a eu 43 sur ces 606 ans. 43 jusqu'en 440 où le premier s'appelait Linus et le dernier s'appelait Sixte III. Je fais quand même des recherches de temps en temps. Ensuite, a été officiellement déclarée la papauté. Le premier pape est apparu, après naturellement 440, après les évêques de Rome, où là, eh bien, ils se sont trouvés un petit peu à l'étroit, parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un qui domine le monde d'alors. Et il y a eu des controverses dans l'histoire primitive. Ah, terrible! Ah ouais, terrible, hein, qu'on ne connaît plus aujourd'hui, hein. Entre ce qu'on a appelé, entre guillemets, les pères de l'Église. Hein, la discussion de la doctrine, le dogme et tout ça, ils se sont battus! Pouh! Quand on lit ce qu'on a lu tout à l'heure, ce que Jésus nous dit, mais c'est pas possible. Mais vous vous souvenez qu'il y a eu une controverse en disant, mais qui serait le plus grand dans le royaume de Dieu? Entre Jacques et Jean. Ça durait tout ça, hein. Et le premier pape apparu était Léon Ier. Ça vous dit rien, hein. Jusqu'au pape d'aujourd'hui. Et il y en a eu 200, je ne sais plus, hein, je sais pas. Mais ça traversait les siècles. Et je voudrais dire quand même quelque chose qui peut être intéressant. Vous avez remarqué que sur la statue, il y a une tête, il y a un buste, il y a un abdomen et des cuisses. Et puis il y a, naturellement, ça c'est les jambes. Il y a deux jambes. Vous savez comment est fait un homme, hein, ou une femme, hein. On a deux jambes, voilà, tout simplement. Et il y a quelque chose d'intéressant parce que il y a deux grandes dominations de l'Église chrétienne sur la terre. Aujourd'hui, il y a l'Église d'Occident et l'Église d'Orient. Alors, je vais vous expliquer. Rome est la capitale de l'Église d'Occident et anciennement Constantinople était la capitale de l'Église d'Orient. Et là aussi, ça s'est pas passé c'était des guerres et toutes sortes de choses. Hein. Et on s'aperçoit que ce que nous connaissons bien chez nous, c'est l'Église d'Occident, c'est-à-dire Rome, qui porte le nom de catholique romain. Mais l'autre, on la connaît un peu moins. Et pourtant, elle est très active. Elle est très active. C'est l'Église orthodoxe. C'est l'Église gréco-russe. On peut le dire comme ça, parce que une grande majorité, ça c'est le monde de l'Est, en quelque sorte. Et il y a quelque chose, si vous allez visiter les pays de l'Est, vous verrez qu'il y a une frontière à un moment donné. Il y a une frontière et on sent le monde orthodoxe qui est très fort. Ah oui. On a été plusieurs fois en Roumanie, ça change tout à fait de décor, hein. On a eu l'occasion d'aller visiter des églises orthodoxes. Pas tout à fait, ah oui, on est un petit peu, et quelquefois c'est colossal. Colossal! On les a vus aussi à Jérusalem parce qu'ils se partagent, catholiques et orthodoxes se partagent le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et là aussi, ils remontent leurs manches. Hein. Attention, il y a un protocole, il faut le respecter parce que vous avez peut-être entendu quelquefois il y a des bagarres à la télévision. Hein. Ouais, c'est l'amour fraternel, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est les deux jambes, le schisme qui a eu lieu, comment vous dire, j'avais retenu la date, mais je m'en souviens plus, en 1050, je crois, oui, c'était en 1050, c'est pas si loin que ça, hein. Mais toujours est-il qu'il y a eu cette séparation, c'est ce qu'on appelle le schisme du christianisme. Alors pour dire tout cela, voyez, la tête, et puis les deux jambes, la statue de Daniel, elle est vraiment bien représentée dans l'histoire d'aujourd'hui, hein. On le voit, c'est formidable. Je voudrais vous donner le coup de faire de l'histoire. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Parce que pour comprendre ce qui va arriver, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Alors, je voudrais vous dire que Pierre, là je prends des risques, hein. Pierre n'a jamais été pape. Et il n'a même pas été le premier pape. Parce que dans le moment où Pierre vivait, il y a eu quand même 600 ans avant le décret officiel de la papauté. 600 ans, c'est quand même pas une petite affaire. C'est pas 6 jours, c'est pas 6 ans. C'est beaucoup plus. Et je vais poser encore une question. Est-ce que Pierre aurait-il jamais été à Rome? Vous qui connaissez bien votre Bible, vous pouvez me répondre tout de suite. Il y a, dans l'histoire, et avec des gens avisés, et avec des théologiens catholiques honnêtes, qui sont très embarrassés par rapport à cette question. Il n'y a aucune trace, ni preuve évangélique que Pierre se soit rendu à Rome. Le silence des Écritures est vraiment très embarrassant. Il y a un exemple. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, ce que j'ai pu faire un petit peu cette semaine, de toute la vie de Pierre, et particulièrement Pierre devenu ce que nous connaissons après son reniement, mais après sa réhabilitation, l'homme que nous connaissons comme apôtre de Jésus, quand on suit chapitre par chapitre du livre d'histoire, du livre des actions des apôtres, on s'aperçoit qu'il n'y a rien du tout où Pierre ait été vraiment dans la capitale de l'Empire romain. Pas du tout. Rien, aucune trace. Mais le plus fort, c'est quand on ouvre l'épître aux Romains, ça commence d'une manière assez évidente, et on s'aperçoit que s'il y a quelqu'un qui peut nous dire s'il y a été ou pas, c'est Paul. Parce que Paul a été à Rome. Paul a été à Rome, vous connaissez les conditions. Et Paul va citer au chapitre 16 nombre de noms, il y en a 27 qui sont cités, 27 noms de gens qui sont des parfaits inconnus pour nous. Voilà. Mais aucunement, il n'est cité le nom de Pierre en salutation, en omettant celui d'un personnage aussi important que aurait pu être Pierre s'il avait été pape, qu'il aurait été salué en premier. Quand je m'adresse à quelqu'un d'élevé en dignité et tout ça, même si je veux dire « vous transmettez mes salutations à un tel et à un tel », je commence à le saluer lui-même. Et en le chargeant peut-être de saluer les autres. Mais pas de commencer par des inconnus qui défilent là. Il y en a 27, non qui... Ça, c'est une preuve. Et ça, c'est une preuve, là, comment dit-on, béton, armé. Quand vous regardez ça, eh bien, vous apercevez que, et on peut l'affirmer, que Pierre n'a jamais été à Rome. C'est pour ça que quand on parle du tombeau de Pierre sous le Vatican, je sais pas qui c'est qui est dans ce... Si Pierre eût été le pontife, il aurait été naturel, il aurait été mentionné naturellement en premier, c'est normal. Quand j'écris, ça m'arrive souvent d'écrire à Barack Obama, ben, je m'adresse à lui en premier. Bon, vous comprenez. Hein? L'histoire religieuse est faite de légendes qui ont donné vie à des géants aux pieds d'argile. Ouais. Alors maintenant, deuxième question, pourquoi Rome? Deuxième question, que ce géant repose sur un socle d'argile de par sa nature charnelle. Je dis bien charnelle. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Jésus nous dit quelle est la vérité et quelle est l'autorité de la foi de tous les chrétiens qui sont convertis à Jésus-Christ, qui appartiennent à Jésus-Christ. Mais quand ça repose sur autre chose, c'est reposé sur du sable. C'est l'insensé qui a construit sa maison sur le sable, même si ça dure. Mais à un moment donné, tout va s'écrouler. Le livre de l'Apocalypse nous parle de cet écroulement. Le sable. Vous savez que Rome est appelée en latin Caput Mundi, la tête du monde, et capitale du monde religieux, en tous les cas pour le christianisme. Au rayonnement universel, plus de deux fois millénaire. On l'appelle la ville éternelle, hein? C'est comme ça, hein? Ouais. Les empereurs, ensuite les pontifes, aujourd'hui encore. Si la houlette de berger a bien été remise à Pierre par ses paroles, Évangile de Jean, chapitre 21 ou 22, si je me souviens bien, quand Jésus dira « Paix mes brebis, paix mes agneaux », c'est la houlette. Le berger. Nous nous apercevons que dans le christianisme que Jésus a mis au monde, là encore, ni la tiare, qui était le symbolisme aussi des empereurs, ni la crosse, qui était une figure aussi importante de l'Empire, la crosse, la tiare, et encore moins le glaive. Ah oui, le glaive. Le glaive, dans l'histoire. Le glaive, il est fait pour les peuples, il est fait pour les États, les royaumes. Il est fait pour ça, mais il n'est pas fait pour l'Église. le glaive qui était remis, où ils se sont remis le glaive, ne lui ont été absolument pas confiés par Jésus. Parce qu'il y a une petite histoire quand même qui nous le rappelle. Quand Jésus a été pris dans le jardin de Gethsémané, qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Il a sorti son épée, il a coupé les cheveux à Malchus. Mais pas seulement les cheveux, il lui a coupé l'oreille. Eh oui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit Jésus? Remets ton épée dans le fourreau. Et quand on voit l'histoire du christianisme humain, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Des siècles et des siècles de sang et de feu. Les guerres de religion, les persécutions, les emprisonnements, les anathèmes, les excommunications, et ceci, et cela, etc., etc., etc. Animés par le bras séculier des rois ou des princes, remets ton glaive dans ton fourreau. C'est terrible, on peut en pleurer, hein. Combien d'innocents, combien d'hommes qui voulaient vivre une foi simplement à la lumière, qui ont été pourchassés. Vous savez, si aujourd'hui l'Amérique du Nord existe, c'est parce que c'était tous les persécutés de l'Europe au 16, 17, 18e siècle qui fuyaient sur des bateaux de fortune, comme aujourd'hui, hein, vous savez, les boat people, ça existe encore, hein, et ils fuyaient aux Amériques pour faire un nouveau monde, où là, eh bien, ils pouvaient trouver finalement de l'espace, et la conscience, la liberté de conscience. Ce qui est dommage, c'est qu'après, quand ils sont arrivés, de persécutés, ils sont devenus persécuteurs aussi. C'est terrible! Enfin, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui ont gardé vraiment la foi, hein, parce qu'ils sont partis avec le plus grand de tous les capitales, c'est l'amour de Jésus-Christ au fond de notre cœur. Et quand on le garde, eh bien, je peux vous dire qu'il n'arrivera jamais rien d'autre, hein, que l'amour. Ouais. Dans l'Apocalypse, la comparaison sans équivoque est faite entre celle-ci, c'est-à-dire Rome, la ville aux sept collines, vous l'avez lu hein, dans l'Apocalypse, et Babylone, Babel. Et Babel, vous savez ce que ça veut dire? Confusion, tout simplement. Et c'est là où nous pouvons nous poser les questions sur le christianisme, qu'il soit orthodoxe ou qu'il soit romain, on se dit, mais est-ce qu'il est chrétien ou est-ce qu'il est païen? Pour vérifier s'il est chrétien, faut aller finalement à ce qui nous est donné à l'origine, à sa nature même, c'est l'évangile. Et c'est celui qui a été le fondateur de l'Église, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors s'il est païen, ça ne doit pas être trop difficile. Vous regardez le monde et vous voyez si ça marche. Faites de superstition ou alors est-ce que c'est l'esprit évangélique? L'opposition patente entre le catholicisme romain et l'esprit de Christ, sa vie et son message. Ah, qu'est-ce que nous allons reconnaître? Qu'est-ce que je reconnais? Mais on ne va pas juger les autres. Jugeons-nous nous-mêmes. Est-ce que véritablement, même dans l'Église évangélique, quelquefois, nos façons d'être, de parler, notre mentalité, est-ce qu'elle est beaucoup plus mondaine ou elle est chrétienne? On commence par nous, hein. Est-ce que c'est le monde qui nous influence? En ayant peut-être des extérieurs chrétiens, et puis le cœur, il reste tout simplement inconverti? Alors moi, je dis résolument non. Il faut être soit d'un côté ou d'un autre. L'Empire romain a fait émerger ce que l'on appelle aujourd'hui le monde occidental, dont on parle souvent en politique, en économie, le monde occidental. Un monde puissant, hein. Et il faut bien le dire, hein. C'est ce qu'on appelle la culture latine. Une culture latine exportée, puisque les deux Amériques en ont eu des effets, hein. Autant les anglo-saxons et voilà l'Europe du Nord, autant peut-être l'Europe du Sud avec les Espagnols, les Portugais pour... L'Amérique, voilà, la latine en tous les cas, exportée. Mais exportée toujours avec le glaive. Hein. Les Amérindiens du Sud, ils savent ce que ça veut dire. Hein. Monde chrétien avec à sa tête un prince internation. C'est comme ça qu'on peut le dire. Le pape auquel tous les dignitaires de la terre, en tous les cas, une grande partie des dignitaires, même le Dalai Lama, hein, viennent faire allégeance, et pendant des siècles et des siècles, pendant à peu près 1200 ans, s'il me semble, il y a eu ce qu'on a appelé en Europe, méconnu, mais appelé le Saint-Empire romain d'Occident. C'est pour vous dire que l'implication, elle était forte. Hein. Le Saint-Empire romain d'Occident. Mais le rêve ambitieux demeure toujours. faire comme Babel l'unification du monde. Vous savez qu'à, je veux pas faire une allusion, mais vous savez qu'à Strasbourg, le Parlement, ou la Commission, je ne sais plus comment on l'appelle, elle est en forme de tour de Babel. Vous regarderez sur une image. Mais bon, je dis rien, parce qu'on n'est pas loin des élections, puis comme moi je veux être élu, alors je dis pas grand chose. L'unification du monde est le dominer, d'une manière ou d'une autre. Tentative sans succès des grands conquérants d'hier, Charlemagne, Charles Quint, Napoléon, Hitler. Mission restée inaccomplie et qui s'est terminée dans un, oh, comment dire, le mot est peut-être juste, un enfer. Un enfer. Dans le feu et dans le sang, comme nous avons dit. Le verset 43 nous dit ceci. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, pseudo-spirituelles, religieuses, des politiques, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, et de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Mariage improbable de la force et de la faiblesse, mélange hasardeux du totalitarisme, comme nous avons connu, et la démocratie impuissante. C'est beau la démocratie, c'est vrai. On est républicain et démocrate dans notre pays, et c'est une noble idée, hein, mais c'est une idée humaine. Sans moi, nous dit Jésus, vous ne pourrez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont belles et nobles, naturellement, mais impuissantes. Illusion de l'idéal du bonheur sans Dieu qui aboutit à l'Antéchrist et à son système qui est appelé la bête, qui ralliera la super-église et son représentant visible, le faux prophète. Relisez le livre de l'Apocalypse et vous trouverez tout cela. Oui, la super-église, ça sera un syncrétisme de toutes les religions de la terre. Ce sera le mélange, et certainement avec un christianisme apostat dominant, mais avec de l'islam, du bouddhisme, de l'hindouisme, et toutes sortes de choses. C'est ça la super-église, on l'appellera peut-être pas super-église vraiment, mais enfin bon, en tous les cas, ce sera une domination. J'ai eu l'occasion d'aller à Bruxelles il y a quelques temps, et on m'a montré un édifice qui s'appelle l'Église des Nations. Voilà. Alors on m'a dit, il n'y a pas grand monde pour l'instant. Mais peut-être que ça viendra, hein. C'est juste à côté du Parlement européen à Bruxelles, c'est dans le centre de Bruxelles. Je termine par cette conclusion. Une petite pierre d'apparence insignifiante fera crouler l'édifice impérial. Je le répète, c'est peut-être le Seigneur qui revient, ça sonne. Hein. Une petite pierre d'apparence, s'il vous plaît, d'apparence insignifiante fera crouler l'édifice impérial. Le verset 34 et 35, parce que je pense qu'il est bon que nous le retrouvions. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la tête devient une grande montagne, entendez le christianisme évangélique, hein, et remplit toute la terre. Chute inéluctable du système politico-religieux mondial, usurpé et mélangé, et émergence inattendue de la foi en Christ vivant et ressuscité, venu une première fois pour sauver les hommes dans lesquels nous avons cru, et c'est ce qui fait que nous sommes là cet après-midi, et qui revient pour régner dans l'univers entier. J'essaie de faire simple, ce qui pourrait être très long et très compliqué. Tu me permettez que je résume comme ça, hein. Eh oui, Jésus est venu dans l'humilité, battu, crucifié, mis à mort, mais ressuscité, et il revient glorieux, et c'est lui qui est véritablement, eh bien, le Dieu créateur, le sauveur de tous les hommes s'ils le veulent. En tous les cas, il est celui que nous pouvons appeler notre frère et notre père, parce que nous sommes aujourd'hui de ses enfants d'adoption et nous avons son héritage. Jésus aura le dernier mot ce matin, mais toujours, hein, c'est pas que ce matin. Dans Marc, il est dit ceci. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Je le répète, quand vous verrez ces choses arriver. elles sont diluées dans le temps et dans l'espace. Mais, attention, sachez que Christ est proche, et il frappe. Et il commence avant de frapper à la porte du monde entier, il frappe à la porte de chacun. Apprends-moi à me connaître, dit Jésus à chaque créature. Découvre-moi, ouvre le livre de la révélation de Dieu. Ouvre ton cœur, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout simplement pour nous dire que la grande statue de Daniel est tout simplement une caricature et un ersasme de ce monde humanisé qui se veut divinisé. C'est ce qu'on appelle le New Age ou le Nouvel Âge. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Je vous ai pas fait peur? Ça va? Votre foi est fortifiée? Alors que Dieu nous bénisse, et nous en tous les cas, que nous puissions bénir Jésus-Christ parce qu'il revient bientôt. On va prier quelques instants. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ta parole parce que elle n'est pas donnée à des hommes qui ont une courte vue. Elle n'est pas donnée à des hommes qui ne peuvent pas réfléchir. Elle n'est pas donnée à des hommes qui sont là, en effet, tenus dans la détresse et l'angoisse de la peur. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que, comme tu le dis, à un moment donné, je vous ai tout annoncé d'avance. Merci pour le prophète Daniel. Merci pour ces belles paroles. Merci pour l'espérance que tu donnes à l'Église et au peuple de Dieu aujourd'hui comme hier, qu'un jour, le ciel s'illuminera de ta venue et ce sera véritablement la vraie lumière. Non pas une lumière artificielle, les lumières artificielles du monde qui éblouissent, qui, en effet, sont là pour nous confondre dans l'illusion de toutes sortes de déviations, toutes sortes de légendes. Mais Seigneur, nous voulons véritablement, Père éternel, te dire et réaffirmer l'Église entière ce matin que notre vie et notre cœur est à toi, Jésus. Oui, Seigneur, à toi et à toi seul. Et si nous vivons en Christ et que Christ vit en nous, eh bien nous avons l'espérance de la gloire. Merci mon Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.